Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business Partenaire. Check-up Santé, en partenariat avec GIFAR, réseau de 1400 pharmacies partout en France.
BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. On a beaucoup parlé Covid cette année, hélas, à juste titre. Il n'a du coup pas été facile de gérer les autres pathologies, en particulier le cancer. Examen diagnostic annulé, traitement retardé, chirurgie reportée. Première cause de décès chez l'homme et deuxième chez la femme. Le cancer tue plus de 150 000 personnes par an. Mais les nouvelles technologies nous laissent de grands espoirs et les professionnels de santé répondent présents dans tous les domaines. Parmi eux, nos invités. Aujourd'hui, Manuel Rodriguez, président de la Société française du cancer, Valérie Ducharne, pharmacien à Lyon, et Olivier Cosset, directeur général France d'Améthyste Radiothérapie. Check-up Santé, c'est parti. Valérie Ducharne, bonjour.
Bonjour Fabien.
Vous êtes pharmacien à Lyon depuis déjà 27 ans.
Oui.
Vous êtes dans un quartier plutôt populaire, plutôt d'affaires.
Un quartier plutôt aisé du centre de Lyon.
Oui, donc vous connaissez par cœur vos clients, vos patients. Qu'est-ce qu'on dit? Clients, patients? Je sais qu'en médecine, on dit patients.
Moi, je dis patient aussi, ouais. Malgré le fait qu'en tant que pharmacien, nous ayons la double casquette de commerçant, mais aussi d'acteur de santé.
Alors, comment avez-vous traversé cette année un petit peu plus qu'étrange?
Très difficile, une année difficile. Nous continuons à travailler par rapport à d'autres corporations qui sont dans dans la misère, on va dire, carrément. Bien sûr. Mais c'est quand même très très dur pour nous.
Ça a été difficile
nerveusement, psychologiquement.
La gestion des masques, voilà. Maintenant la gestion
des tests antigéniques.
Oui.
Oui.
Donc vous avez quand même traversé cette crise. Alors vous voyez évidemment des patients de tout type, mais c'est vrai qu'on oublie de penser que vous voyez aussi des patients atteints de cancer.
Énormément.
Oui. Tous les jours, vraiment?
Presque, oui. Tous les jours.
Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces patients? Est-ce qu'ils se confient à vous?
Non. Ils ne se confient pas. Généralement, on s'aperçoit de leur pathologie au moment de l'ordonnance,
oui.
Qui leur prescrit des antivomitifs, voilà.
Oui. Mais vous, ils ne vous parlent pas facilement donc, de leur pathologie?
Non. Il faut qu'on aille au-devant d'eux, en fait. Il faut qu'on leur pose des questions.
Et à partir de ce moment-là, donc évidemment, ils vous le disent.
On engage la conversation et puis on essaye de les prendre sous notre aile.
Parce qu'il y a aussi parfois en pharmacie le problème d'un petit peu de l'intimité. Il y a d'autres patients derrière, à côté, donc c'est pas facile peut-être de raconter son histoire.
Non, mais en officine, nous avons des locaux adaptés qui nous permettent de nous isoler et de pouvoir ménager cette confidentialité. Mmh.
Donc vous les aidez peut-être un petit peu mieux, d'autant que vous avez peut-être personnellement été atteinte de cette pathologie?
Oui, tout à fait.
Oui, donc vous pensez mieux les comprendre?
Je pense pouvoir plus facilement les aborder, sans tabou.
Oui.
Je vais pas leur demander « ça va ?» parce que bon, évidemment, ça va pas, ni dans la tête, ni dans le corps. Mais une question du type « Où en êtes-vous? Comment ça se passe ?» Et là, la discussion se commence. Oui.
Alors, ils ont des traitements, évidemment, parfois des traitements importants. Hein.
Oui.
Est-ce que vous êtes confronté à un problème d'observance?
Oui.
Carrément. Le patient, donc, ne prend pas vraiment... Ou il prend mal, ou il prend pas son traitement?
Soit il prend mal, soit il prend pas son traitement. Les effets indésirables sont beaucoup... la cause de cette inobservance.
Oui.
Et donc, nous sommes vigilants à ce niveau-là. Cela fait, moi, 6 ans que je fais des entretiens pharmaceutiques, pas officiels, pour accompagner les patients. Je leur demande leur vécu, la compréhension de leur traitement, les effets indésirables qu'ils ressentent, et j'essaye de les accompagner... et de leur permettre de maintenir le traitement.
Parce que ces consultations, en fait, sont prises en charge maintenant par l'assurance maladie?
Alors ça, c'est tout nouveau. C'est un avenant qui a été entériné fin septembre 2020, Alors, personnellement, je n'ai pas commencé ces véritables entretiens pharmaceutiques. J'ai fait des entretiens qui étaient moins cadrés, mais tout aussi appréciés par ces patients atteints de cancer.
Alors, vous proposez évidemment deux types de traitements. Le traitement, évidemment, spécifique du cancer. Oui. Mais vous avez aussi d'autres médicaments pour, évidemment, gérer les éventuels effets indésirables. On parle de traitement adjuvant. Parce que le patient qui est atteint de cancer, il a parfois une intolérance à certains médicaments, au niveau de la peau, au niveau de...
Oui, alors oui. Moi, j'appellerais ça plutôt des soins de support.
Oui.
On ne va pas se substituer au médecin en prescrivant, en proposant des médicaments qui permettent de pallier à ces effets indésirables. Si les effets indésirables sont intolérables, on les renvoie vers leur oncologue ou leur médecin généraliste. Nous, on apporte des soins de support, c'est-à-dire par exemple des soins au niveau de la sécheresse cutanée, de la sécheresse vaginale, de la sécheresse nasale, des démangeaisons, des brûlures des pieds, des mains.
Traitement pour les cheveux aussi.
Traitement des ongles. Oui,
du cuir
chevelu.
Ouais, et vous avez donc un rôle aussi d'alerte, de pharmacovigilance.
Oui.
Est-ce que vous collaborez avec les autres maillons de la chaîne santé, avec les,
oui,
avec
bien
les médecins
sûr.
Avec,
Oui, tout à fait. Oui. On a une messagerie sécurisée qui nous permet, je parle sur Lyon, qui nous permet d'être en relation avec l'équipe complète qui gravite autour du patient atteint de cancer.
D'accord. La Covid cette année a changé un petit peu le discours des patients atteints de cancer ou pas?
Alors, on a vu quelques reports d'examens, mais pour ce qui est de la chirurgie et des traitements, je ne pense pas
de changement.
Non.
Donc, vous êtes vraiment en rapport avec toute la chaîne, avec le médecin, avec le cancérologue que vous allez éventuellement alerter.
Oui, tout à fait.
D'accord. Mais vous avez des contacts quasiment quotidiens avec le.
Si il y a problème.
Bien sûr.
Après, si tout se passe bien.
Donc on parlait d'entretien entre le pharmacien et le patient. Est-ce que le pharmacien est suffisamment formé?
Le pharmacien doit se former.
Oui.
Les traitements anticancéreux sont des traitements qui sont assez complexes, avec beaucoup d'effets indésirables, beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc pour pouvoir mener ces entretiens pharmaceutiques à bien, il est nécessaire de se former, de récupérer les données du patient complètes, ses ordonnances, mais également de pouvoir télécharger et étudier les fiches des médicaments quand on parle d'anticancéreux oraux. C'est-à-dire, je ne parle pas de la chimiothérapie qui est faite à l'hôpital, je parle de la chimiothérapie orale. Quand le patient est dans la nature, on va dire, c'est des molécules qui sont quand même complexes, donc on est obligé de se renseigner sur les modalités de prise, les effets indésirables.
Donc, une formation indispensable. Vous appartenez au groupe GIFAR.
Oui.
Est-ce que dans le groupement GIFAR, donc vous avez ce genre de formation? Oui.
Ah, tout à fait. On a un groupe qui s'appelle Hémisphère Santé, qui est très pointu et qui nous aide beaucoup pour ce type d'entretien.
Parfait, merci beaucoup Valérie Ducharne, merci beaucoup. On va accueillir à présent Olivier Cosset, qui est directeur France d'Améthyste Radiothérapie.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Olivier Cosset, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le patron France de Améthyste Radiothérapie. Ça s'écrit IE à la fin pour la France et Y pour l'Europe, c'est ça?
Oui, on a fait attention.
Oui, d'accord. Donc parmi les traitements du cancer qui ont le plus évolué, la radiothérapie est vraiment en bonne place?
Oui, tout à fait. Alors ça a évolué sur toutes les techniques et la radiothérapie n'a pas échappé à la règle avec des grosses évolutions, surtout en termes de balistique de traitement.
On va en reparler, oui. Donc il y a deux types de radiothérapie. Hein. La radiothérapie, c'est d'envoyer des rayons.
Tout évidemment. À fait.
Deux types donc de radiothérapie.
Oui, la curithérapie qui va être l'application d'une source au plus près de la tumeur.
Donc et une radiothérapie locale en fait.
Alors toutes les radiothérapies sont locales.
Ouais.
C'est vraiment un traitement qui est ciblé. La particularité c'est soit on va amener une source radioactive au plus près de la tumeur, donc c'est la curithérapie.
D'accord.
Soit ça va être un rayonnement externe qui va traverser le patient sur la zone où la tumeur est en place.
On sait combien de séances de radiothérapie sont effectuées en France par an?
Alors il y a environ un peu plus de 50% des patients qui passent en radiothérapie. Faut savoir qu'en moyenne, un traitement de radiothérapie dure environ 14 à 20 séances. Donc on peut extrapoler, mais ça représente 200 000 patients traités par an environ.
D'accord. Et donc vous, Vous avez donc Améthyste, vous dirigez Améthyste Radiothérapie en France. Vous avez des centres. Vous êtes une société privée.
Tout à fait, une société purement privée, une société qui gère le plateau technique. Donc, on met à disposition des praticiens les meilleurs équipements en place, de façon à pouvoir leur offrir toutes les capacités de traitement possibles. On gère environ 3000 patients par an.
D'accord. Donc, vous avez démarré en 2011 dans toute l'Europe.
Oui.
Et puis en 2014, c'est ça, en France, vous avez quatre centres. Mais donc vos centres sont adossés, c'est ça, à des services, à des établissements de santé existants déjà.
Tout à fait, privé ou public, oui. Ce qui fait absolument pas de différence pour nous.
Oui. Donc privé ou hôpital.
Voilà.
Oui. D'accord. On pourrait se poser la question, pourquoi les hôpitaux et les cliniques n'ont pas leur propre centre de radiothérapie?
Alors, c'est le cas dans certains hôpitaux et cliniques, mais ça devient une spécialité où il y a de plus en plus d'investissements, de plus en plus lourds, très spécifiques. Mm-hmm. Et gérer un seul centre de radiothérapie, c'est compliqué parce que c'est une hyper-spécialisation et on ne bénéficie pas de la force un petit peu d'un réseau qui permettrait d'avoir un retour d'expérience. D'accord. Avec les différents centres et aussi d'un poids en termes d'achat de matériel.
Mm-hmm. Et ça coûte cher, un centre de radiothérapie?
Alors, les investissements sur une machine, c'est environ 2 millions d'euros. Il en faut 2 pour fonctionner. Là-dessus, on rajoute des bunkers qui coûtent quasiment plus d'un million euros pièce en termes de construction, du matériel informatique et des logiciels. On va être à minima 14 millions d'euros pour une création de centre et l'équiper complètement.
14 millions d'euros. Et alors que une séance de radiothérapie est prise en charge et ne coûte pas si cher que ça, non?
Alors, on n'est pas les plus mal lotis en termes de remboursement. C'est d'ailleurs ce qui a permis une évolution des plateaux techniques en France sur les dernières années. Il faut savoir que la France est relativement en avance par rapport même au reste de l'Europe en termes de technologie et de renouvellement des équipements.
On ne manque pas de centres de radiothérapie en France?
Non. Aujourd'hui, on a des centres de radiothérapie qui sont à niveau. Mmh. Et qui sont en quantité suffisante pour la couverture du territoire. D'ailleurs, il n'y a pas de création de centres prévus par les ARS depuis un certain nombre d'années pour les prochaines années.
D'accord. Donc vous avez 4 centres en France. Vous n'imaginez pas en avoir un peu plus?
Alors, on va se développer, oui. Mais ce sera par acquisition. Ce ne sera pas par de la création ex nihilo ou greenfield.
D'accord. C'est dur d'avoir les autorisations, non?
Alors, c'est des autorisations qui sont sectorielles. Comme je vous dis, le territoire français est aujourd'hui couvert. Donc, il y aura très peu de nouvelles autorisations qui seront délivrées, à moins qu'un territoire spécifique soit dépourvu. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qui a évolué dans la radiothérapie? On sait que ça évolue en permanence. Hein. Vous devez d'ailleurs vous adapter.
Oui.
Et aussi, ça coûte cher. Qu'est-ce qui a évolué?
Alors c'est essentiellement
la radiothérapie, oui.
D'un point de vue technique, sur lequel moi je vais m'attacher, c'est vraiment la spécificité et la capacité des machines, à la fois à délivrer différemment la dose, avec beaucoup plus de précision. Maintenant on est de l'ordre millimétrique, alors qu'avant, basiquement, on faisait un carré autour de la tumeur en irradiant légèrement les organes à risque qui étaient autour.
Aujourd'hui, on irradiait aussi bien les cellules tumorales que les cellules saines qui étaient autour de...
Alors, on essayait de préserver au maximum, mais il y avait toujours un petit peu de débordement. Aujourd'hui, on a des machines qui sont capables de délivrer une dose avec une rotation autour du patient, ce qui va permettre de réduire les marges et donc de réduire les radiations pour les organes à risque qui sont autour.
Et du coup, de réduire aussi, d'abord, évidemment, d'être plus efficace et de réduire aussi parfois les effets secondaires, donc.
Alors, c'est le principal aspect sur lequel on a progressé sur les dernières années. Mmh. Ça va être sur les effets secondaires. En fait, le taux de survie a été amélioré sur certaines localisations particulières, mais de manière globale, il n'y a pas eu de révolution, il y a eu une évolution qui essentiellement est sur la façon de délivrer la dose, mais du coup, ça a permis aussi d'augmenter la dose qui est délivrée.
Oui. Alors, évidemment, vous agissez sur les tumeurs solides. Hein.
Oui.
Pas sur les leucémies, ni les lymphomes, etc. Donc, vous parliez de progrès en balistique, hein, c'est ça, c'est l'abord de la tumeur en 3 dimensions, c'est ça, de vos appareils?
Oui, c'est la façon dont la dose est délivrée, et ce qui a permis aussi d'augmenter la dose qui est délivrée dans un temps réduit. Typiquement, aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en place dans la totalité de nos centres, c'est le gating, qui va permettre de suivre en temps réel le déplacement de la tumeur pendant le traitement. Un traitement dure environ 6 à 10 minutes, et du coup, il est important, vu le niveau de précision, de suivre le déplacement de cette tumeur, notamment pendant la respiration.
On parle beaucoup de techniques qui permettent d'améliorer les radiothérapies, par exemple. On parle beaucoup de nanoparticules qui iraient sur la tumeur et qui permettraient de mieux la localiser ou de mieux agir dessus.
Alors, c'est des radiosensibilisateurs qui sont en effet en développement. On est sur des phases 3, hein, donc on n'est pas encore sur une commercialisation ou des mises en place généralisées.
Ça ne serait tardé?
Je pense que ça va prendre un peu de temps. Hein. Ouais. Là, on serait sur... Et d'ailleurs, on serait encore sur une amélioration balistique parce que ce sont des radiosensibilisateurs qui permettraient d'augmenter la dose qu'on délivre avec plus d'efficacité, mais qui ne changeraient pas le concept radicalement de la radiothérapie. Là, pour une vraie révolution, il faudrait attendre certaines technologies comme la flash thérapie qui sont à l'étude, mais c'est vraiment les Américains qui sont leaders là-dessus. Mais alors là, on est sur 10 à 15 ans, je pense, avant que ça se mette en place.
Très bien, bravo pour cette technique indispensable dans le traitement et la gestion du cancer. Merci Olivier Cossé. On va à présent accueillir Manuel Rodriguez, qui est président de la Société française du cancer. Mais avant, on va accueillir un autre Olivier que Olivier Cossé. Olivier Robichon, directeur de la revue Prescription Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Olivier Robichon, bonjour.
Bonjour Fabien.
Vous allez bien ?
Ça va, impeccable.
Bon, alors on va parler de vaccination. On dit, on dit que la vaccination d'une partie suffisante de la population va peut-être prendre beaucoup de temps.
Bah oui, surtout si on ne s'organise pas en conséquence. On a décidé en France de ne pas faire de vaccination de masse, enfin de ne pas avoir d'installation comme on les a mis par exemple en place en Allemagne ou en Angleterre. Donc il faut assumer, il faut notamment, je pense, ouvrir la vaccination possible à tous les professionnels de santé et notamment aux pharmaciens. On attend la... Il faut qu'il y ait au moins 70 à 80% de la population qui soit vaccinée pour que ce soit vraiment efficace. En Grande-Bretagne, on a commencé le 8. Mamie Margaret Keenan, 90 ans, a été vaccinée la première. Ce week-end, là, on atteindra 200 000 vaccinations. Donc, quand on se donne les moyens, ça va vite.
Ouais, mais est-ce que vous ne pensez pas que les labos auront du mal à produire ces vaccins ?
Non. En tout cas, pour les pays développés, malheureusement, pour les pays qui ont les moyens, les labos qui sont dans les premiers dans la course ont tous déclaré des capacités de production proches du milliard de doses. Donc, on est sur 8 milliards de doses à peu près, on aura largement de quoi faire pour les pays développés.
D'autant qu'il y a d'autres laboratoires qui vont avoir des autorisations pour le vaccin.
Absolument. Là, il y en a un qui est très en avance, c'est Pfizer-BioNTech. Donc, on sait qu'en Europe, c'est demain, c'est après-demain, lundi, la réunion. Mais les vaccinations ont commencé aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, dans certains pays du Golfe. Donc, sont en avance. Juste derrière, il y a Moderna. L'autre américain, qui est dirigé par le français Stéphane Bancel, en Europe, ce sera tout début janvier. Et donc, à moins d'un accident, validation dans la foulée. Donc ça devrait aller assez vite pour ces deux-là.
Vous disiez donc que cette vaccination, elle sera évidemment pas homogène en fonction des régions.
Non, il y a un vrai problème là-dessus. Il y a un chiffre qui vient d'être édité par Science, je crois. On pense que 25% des pays dans la planète devront attendre 2022 avant d'avoir les premières doses. Donc il y a une vraie inégalité. Il y a 8 milliards de doses de commandées aujourd'hui, fermes et définitives. Alors, il y a certains laboratoires qui vont être en retard, comme Sanofi, par exemple, on le sait. Mais 8 milliards de doses, on a largement de quoi faire. En Europe, on couvre, tous les pays sont à peu près au même niveau, 172% de la population. C'est-à-dire qu'on peut vacciner quasiment les gens deux fois, à peu de choses près. Le plus, là-dessus, il y a un record qui est absolu, c'est le Canada. Eux, ils ont commandé 400%. Donc, comme ça, ils sont tranquilles, ils peuvent en perdre 3 sur 4. Il en reste quand même.
Oui, en fonction de la durée d'immunité, peut-être.
Ouais. Oui. Effectivement, et puis ils ont éventaillé leur commande, donc ils sont plutôt sécures là-dessus. Par contre, il y a des pays où effectivement il y a des problèmes. Il y a moins de 50% en Argentine, moins de 50% de la population aujourd'hui qui est couverte par les commandes, moins de 27% au Pakistan, 10% seulement en République démocratique du Congo ou 5% en Mali.
5% en Mali, terrible.
C'est terrifiant.
La France, la suspicion, il y a beaucoup de suspicieux qui disent que tout va trop vite.
Ouais, alors il faut arrêter de dire que tout va trop vite, il faut dire que tout va très vite, voilà, c'est ça. La vraie différence avec le temps normal, avec le contexte est normal, c'est que justement aujourd'hui le contexte n'est pas normal. Pendant presque un an, tous les chercheurs de la planète, ou presque, se sont concentrés sur le vaccin. Il ne faut pas s'étonner que ça aille plus vite. Aux États-Unis, parce que je ne suis pas un fan de Trump, mais honnêtement, le travail qui a été fait, la mobilisation qui a été faite, organisée par Trump, là-dessus, elle était exemplaire. On a mis des dizaines de milliards de dollars sur la table. Quand on met autant d'argent, autant de capacités, autant de talents, il est évident que ça va plus vite, c'est normal. Et puis, il faut le souligner, il faut le répéter en permanence, aucune étape normale du développement d'un produit ou d'un vaccin n'a été squeezée, on a compressé.
Et les Français sont quand même réservés quant à la vaccination, comme d'habitude.
Ouais, c'est peut-être le problème plus grave encore que la logistique. C'est ce vaccino-scepticisme qui perdure. Vous savez que il y a deux jours, il y a une étude qui a été faite sur les EHPAD. Normalement, c'est dans les EHPAD que la vaccination va commencer. Sur le personnel soignant, seulement moins de 20% des personnes soignantes sont prêtes à se faire vacciner. C'est dramatique quand on sait combien il y a une mort dans ces EHPAD.
Évidemment.
Donc, il faut vraiment répéter ce message à l'envi. Et puis, moi, je suis désolé. Je sais que c'est pas apprécié, mais je pense que sur certaines populations phares, et notamment les personnels soignants, ça existe déjà, il y a des vaccins. Vous êtes médecin, vous êtes vacciné obligatoirement contre certaines maladies. Je pense qu'on devrait aussi imposer la vaccination contre le Covid à ces personnels de santé.
On verra bien. Merci Olivier. Merci, on va laisser la place à Manuel Rodriguez, qui est le président de la Société française du cancer.
BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Manuel Rodriguez, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes oncologue médical, vous êtes chercheur à l'Institut Curie et vous êtes le président de la Société française de cancérologie qui est plus vieille que moi, 110 ans.
C'est ça, oui, un peu plus vieille.
110 ans, c'est quand même énorme, quoi.
Oui, ça a été fondé. C'est une des premières sociétés savantes de cancérologie au monde même.
Et quelle est sa mission?
En fait, elle a été créée simplement au début du XXe siècle entre des médecins et des chercheurs qui se réunissaient pour parler de ce qui se passe de nouveau en cancérologie, de compréhension du cancer. Et c'est ça, en fait, qui perdure. C'est ça qui est dans son ADN. Donc, en fait, sa mission, c'est participer à la formation des médecins, des chercheurs, aider à l'interaction entre eux, soutenir des séminaires, des symposiums, des discussions entre eux, participer aussi par le biais du bulletin du cancer, une revue justement qui donne l'actualité sur la cancérologie.
Alors la cancérologie, c'est une spécialité qui a le vent en poupe, non?
Oui, de plus en plus, depuis en gros le début du XXIe siècle, il y a eu le plan cancer qui a poussé quand même, qui a rendu une visibilité à la cancérologie, des investissements aussi qui ont été faits par les gouvernements, et on voit bien, ça se ressent en fait depuis le début des années 2010, en particulier avec l'augmentation du nombre d'internes alloués à l'oncologie.
C'est une spécialité très plébiscitée par les internes.
Oui, on s'était posé la question, parce qu'à un moment, on a augmenté de façon importante le nombre d'internes en oncologie médicale. Alors pas maintenant, il y en a plus quand même. On a formé entre 100 et 125 internes par an ces 10 dernières années. Heureusement, pour compenser, parce qu'il y avait un énorme manque, et les internes sont plus entourés, parce que c'est une spécialité qui est en même temps hautement technique, hautement technologique, beaucoup d'innovation, et en même temps très humaine, très en lien avec le patient.
Est-ce qu'on peut estimer le coût du cancer en France? Je sais que c'est difficile.
L'estimation est très compliquée, c'est un vrai débat, il faudrait faire une vraie émission là-dessus, parce qu'il y a le coût direct, évident, dont on parle tous les jours dans les journaux, le coût du médicament par exemple, qui augmente. Le coût des soins, l'hospitalisation, et les coûts indirects aussi de répercussions sociales, sociétales en fait, du cancer, parce que ce sont des gens qui ne travaillent plus, c'est des gens qu'il faut réintégrer dans la vie active, et ça, c'est un impact indirect important en termes de cotisation, en termes de justement... Parce que ça touche pas aussi que le patient, ça touche aussi son entourage. Quelqu'un qui est atteint de cancer, qui ne travaille plus, qui ne s'occupe plus des petits-enfants, par exemple, ça impacte les enfants aussi. Ouais.
Comment se place la France quant à son excellence dans le monde?
En termes de recherche, que ce soit basique ou donc fondamentale et clinique, la France se positionne bien. En termes de formation, on forme d'excellents chercheurs, il y a d'excellents centres de recherche, on publie bien. Par contre, le problème, c'est vrai qu'en termes d'investissement derrière pour se développer, c'est plus difficile. Donc, on perd beaucoup de chercheurs qui partent s'installer à l'étranger, en particulier aux États-Unis, bien évidemment. C'est toujours le cas. Alors, il y a des investissements français, enfin, des investissements, en fait, européens, français, même régionaux, pour aider les jeunes, en fait, investigateurs à revenir en France, à s'installer, à développer une équipe. En recherche clinique, donc en essai clinique, la France se positionne très bien, en fait. Elle se développe de plus en plus. Les groupes coopérateurs d'une pathologie sont connus dans le monde entier, ça fait partie des groupes de référence. Après, effectivement, il peut y avoir des problématiques parce qu'on est peut-être plus long à mettre en place essais cliniques que dans d'autres pays. Mais ça se positionne très bien.
D'accord. On va parler de trois mots. Premièrement, l'incidence du cancer en France et en Europe. Le cancer augmente?
En France, on est à 380 000 cas à peu près par an, nouveaux cas par an. L'incidence augmente. Alors, il y a plusieurs facteurs. D'une part, la population augmente et le vieillissement de la population intervient. Oui. Et il y a une très grande hétérogénéité. Si je peux dire juste un mot là-dessus, c'est qu'en fait, quand on parle de cancer au pluriel, systématiquement, parce qu'il y a de très grands nombres de cancers. Et l'incidence du cancer du sein n'a rien à voir avec l'incidence du cancer du poumon ou de la prostate, son évolution. Donc, effectivement, ça participe.
Mais globalement, sur ces 20 dernières années, est-ce que l'espérance de vie augmente? Est-ce que la mortalité baisse? Est-ce que la survie augmente, baisse?
La mortalité, heureusement, et l'espérance de vie augmente, la mortalité baisse. Il y a eu cette campagne de publicité dont on se rappelle de la Ligue contre le cancer il y a quelques années, quand on avait dépassé les 50% de survie à 5 ans, ce qui est quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, en France, il y a presque 4 millions de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Et ça, ces 4 millions, c'est quand même important. C'est-à-dire que c'est votre voisin, votre boulanger, les gens avec qui vous travaillez.
Ouais, l'incidence augmente pour certains cancers, en particulier les cancers du poumon chez la femme.
L'incidence augmente pour certains cancers. Certains cancers, ça diminue quand même. Il faut rester optimiste. Le cancer du poumon, par exemple, chez l'homme, ça diminue. Le cancer du poumon chez la femme, ça augmente, c'est problématique. Il y a un délai, comme on le voit en cardiologie aussi, un délai pour la consommation tabagique chez les femmes au XXe siècle, qui fait qu'on est encore en plein pic de l'augmentation du nombre de cancers du poumon.
Vous parliez de différents cancers. On parle beaucoup de cancers personnalisés.
Alors, en fait, les cancers, maintenant, on les classifie. C'est très intéressant, parce que par rapport à ce qu'on a connu au XIXe siècle jusqu'à maintenant, on est parti d'une maladie qu'on ne s'expliquait pas bien, à maintenant maintenant des sous-types moléculaires de pathologies qui en font donc des chaque pathologie devient des pathologies rares. Oui. Pour les cancers du sein, on peut en différencier une dizaine peut-être. Et donc en ça, cette précision, on appelle ça la médecine de précision pour la classification moléculaire de ces cancers. Et ça se traduit derrière en traitement personnalisé, effectivement, du cancer pour les patients.
Alors les traitements évidemment évoluent. On a aussi des marqueurs aussi qui sont qui prennent place un petit peu dans le suivi ou dans le diagnostic ou le pronostic du cancer.
Oui, en fait, oui. C'est des biomarqueurs. Alors, les biomarqueurs simples qu'on pouvait mesurer facilement avant. Maintenant, c'est surtout des biomarqueurs moléculaires qui ont commencé à apparaître à la fin des années 80 et qui maintenant explosent littéralement. L'exemple simple, c'était le cancer du sein pour le biomarqueur qu'on a découvert, qui était l'HER2, l'amplification de ce gène à la fin des années 80, qui est un marqueur de mauvais pronostic. Donc, on pouvait penser qu'il fallait intensifier le traitement. Depuis, on a développé des anticorps anti-HER2. Mm-hmm. Qui marchent très bien chez ces patientes-là, qui réduisent de moitié le risque.
Est-ce qu'il y a aussi des marqueurs de bon pronostic?
Oui, HER2 par exemple, ouais. Maintenant qu'on a un traitement, c'est devenu un marqueur finalement de bon pronostic. Mais effectivement, il y a des marqueurs de bon pronostic qui peuvent nous aider pour en fait décroître l'intensité thérapeutique. C'est en ça où on va personnaliser le traitement, c'est-à-dire qu'il y a des traitements qu'on peut faire moins intenses pour un patient donné en fonction de biomarqueurs.
Alors pour finir, l'oncologie du futur, vous la voyez comment?
L'oncologie du futur, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part de la technologie, parce qu'il va y avoir de plus en plus de technologies. Alors aussi bien sur un plan moléculaire de caractérisation, parce que maintenant on a des plateformes de l'INCa qui permettent de caractériser les cancers qui sont très importantes en France, et en ça on est innovateur. Technologie en termes de nouveaux traitements. Il y a de nouveaux traitements qui arrivent chaque semaine quasiment en cancérologie. C'est assez phénoménal. Aussi des choses en termes d'informatique, de machine learning qui va nous aider à interpréter la radiologie, la napate, et aussi d'accompagnement avec la e-santé, des smartphones, des applications qui peuvent même
suivre le patient.
Suivre le patient, c'est quand même assez phénoménal. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour un médicament d'augmenter l'espérance de vie d'un patient, mais il y a des applications qui permettent d'augmenter l'espérance de vie d'un patient parce qu'elles permettent d'alerter le médecin quand le patient va pas bien. Mais ce qui est très important, c'est qu'il ne faudra pas oublier qu'il y a un aspect humain dans la prise en charge du cancer qui doit rester central et pas être uniquement technologique.
L'immunothérapie, c'est la révolution ?
L'immunothérapie, c'est l'une des révolutions. Ça, c'est important aussi comme message, qu'effectivement, l'immunothérapie au sens large, c'est l'une des révolutions, mais les patientes s'étonnent au quotidien quand on leur explique que, malgré tout, il faut recevoir de la chimiothérapie. Donc, ça vient se rajouter à la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et les autres traitements. Ça se rajoute.
D'ailleurs, les oncologues médicaux sont évidemment aidés par les autres spécialités de chirurgie.
La particularité de l'oncologie médicale, c'est qu'on peut rien faire tout seul. Et donc, on est central et en même temps dépendant de tout le monde. On dépend du chirurgien, de la napate, de l'oncologue radiothérapeute et des collègues.
Alors, juste un mot pour finir. Votre société n'a aucune subvention de l'État.
Non.
Donc, on peut faire des dons.
On peut faire des dons, on peut faire des legs. On marche principalement
sur quel site, pour finir?
Alors, il faut simplement chercher sur Google, SFC, Société Française du Cancer, et vous trouverez notre site.
Très bien, merci beaucoup Manuel Rodriguez, merci beaucoup. Notre porte vous est ouverte, vous revenez quand vous voulez. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine.
Check-up Santé, en partenariat avec GIFAR, réseau de 1400 pharmacies partout en France.